proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir Jessica Roda, enseignante-chercheure à Washington, de passage à Paris. Bonsoir Jessica.
Bonsoir Sandrine.
Alors je vais tenter de vous présenter en quelques phrases. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vous êtes anthropologue, ethnomusicologue, spécialisée dans la vie juive en Amérique du Nord et en France, ainsi que dans les politiques culturelles internationales. Qu'est-ce que ça veut dire les politiques culturelles internationales?
En fait, j'ai travaillé principalement sur l'UNESCO, tout le développement en fait de la préservation culturelle et artistique à l'échelle globale, on va dire, le développement d'un certain nombre de préservations et de, je dirais, d'intérêts de diverses nations sur la préservation artistique et patrimoniale.
D'accord. Pour faire court. Alors, vous êtes surtout enseignante-chercheure à l'Université Georgetown, au Centre de civilisation juive de Washington, D.C. Et vos recherches s'intéressent à la religion, les arts de la scène, le patrimoine culturel, la question du genre et les médias. Donc, c'est extrêmement riche. Vous êtes exceptionnellement de passage à Paris pour présenter vos travaux sur les femmes ultra-orthodoxes en Amérique du Nord. Un livre est d'ailleurs en préparation sur le sujet qui devrait paraître en 2023. C'est la conclusion de votre étude. Qu'est-ce que c'est ce livre?
Oui, en fait, j'ai commencé mon terrain en 2015 auprès des communautés, on va dire, ultra-orthodoxes. On pourrait débattre du terme un peu plus tard. En 2015, entre Montréal et New York. Et au fur et à mesure de ma recherche, j'ai travaillé principalement avec les femmes artistes. J'ai commencé de façon plus intense avec les femmes artistes en 2017. Et puis, donc, ça fait à peu près un peu plus d'un an que je suis à la rédaction de cet ouvrage qui va paraître New York University Press, donc en 2023, voilà.
Et on espère peut-être traduire en français par la suite. Alors, ce groupe particulier de vos études actuelles, ce sont les femmes juives religieuses d'Amérique du Nord. Pourquoi ce choix?
Alors, pourquoi ce choix? J'ai toujours été fascinée par le monde chassidique. Là, je vais changer, en fait. Oui. J'habitais à Montréal, en fait, quand j'ai quitté la France en 2010. Moi, je viens d'une famille laïque, j'ai grandi dans une forme d'assimilation, et puis quand j'ai grandi en Guyane, et en arrivant en France au début de mes études, je me suis reconnectée, en fait, avec la communauté séfarade, et j'ai travaillé pendant 10 ans autour de la culture judéo-espagnole, plus précisément.
Ce sont vos origines?
Oui, c'est oui. Ça. Ma mère est d'Algérie, en fait.
D'accord.
Donc, principalement Afrique du Nord, mais les judéo-espagnols ne sont pas mes origines, mais le monde séfarade. Et en fait, en arrivant à Montréal, j'allais très, très souvent dans le quartier d'Outremont et il y avait une communauté racidique assez importante. Et il y a toujours eu cette fascination, surtout à Montréal, contrairement peut-être, je dirais, à la communauté orthodoxe que l'on peut trouver en France. Vraiment une séparation assez, assez importante. C'est une communauté qui parle encore yiddish, qui est très, très séparée, qui est très visible aussi. Et j'ai toujours été fascinée. Et en fait, voilà, cette fascination m'a conduite. Il y a eu aussi un moment dans ma vie où j'ai été plutôt orthodoxe aussi. Donc, j'avais quand même un certain lien, je veux dire, et un intérêt voilà, pour cet univers-là.
Alors, on parle du thème ultra-orthodoxie. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est le stade ultime du respect du religieux? Et est-ce que finalement, ce n'est pas un pléonasme, ultra-orthodoxie?
Alors oui, donc en Israël, on parle des Haredim.
Oui.
Alors, c'est un choix que j'ai fait et que plusieurs autres chercheurs font d'utiliser le terme ultra-orthodoxe. Dans le titre du livre, il y aura le terme orthodoxe. Et après, comment est-ce qu'on définit orthodoxe par rapport à ultra-orthodoxe? C'est vraiment cette division, contrairement par exemple dans le monde nord-américain, où les orthodoxes ont un lien avec, je dirais, la société majoritaire, avec la laïcité, et puis c'est surtout le modern orthodox. Les ultra-orthodoxes ont vraiment cette idée d'avoir une éducation, avoir un système économique complètement séparé du reste du monde. Donc c'est dans ce sens-là qu'en sens social, on distingue d'une certaine manière pour vraiment mettre l'emphase sur une manière, et en fait une culture et aussi un langage, enfin un certain nombre d'habitudes qui sont distinctes du monde orthodoxe.
Vous êtes francophone, habitué du système français aussi. Est-ce que ce modèle n'existe qu'en Amérique du Nord?
Alors,
par rapport à la France.
Par rapport à la France, oui. C'est certain que, parce que justement, de par l'histoire de la France et son rapport à la laïcité, je dirais, d'ailleurs, beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, leurs grands-parents sont passés souvent par la France. parce que beaucoup sont rescapés de la Shoah. Et en fait, ils sont passés par la France et souvent, ils sont partis donc en Amérique du Nord. Une communauté aussi à Anvers, en fait, communauté très, oui. très importante, et à Londres. Mais en France, en effet, France-Amérique du Nord, il y a enfin, le shtetl que l'on peut trouver, ou les shtetls que l'on peut trouver dans la région de Montréal ou dans la région de New York, on ne les retrouvera pas ici. Même si peut-être en allant à Aix-les-Bains, on peut peut-être avoir un semblant, mais je dirais que ce n'est pas du tout le même contexte.
Alors, quoi qu'il en soit, dans les études juives et dans la société en général, hein, c'est un sujet qui semble à la mode, impulsé par l'Amérique du Nord et qui commence à susciter de l'intérêt. Il y a par exemple des films ou des séries qui sont consacrés au milieu juif orthodoxe et on a tous évidemment en tête Unorthodox, basé sur l'histoire vraie de Deborah Feldman qui a quitté sa communauté hassidique. Est-ce que c'est d'actualité dans les études juives d'aborder l'orthodoxie, la place des femmes dans cette orthodoxie, donc les questions du genre et les mouvements qui l'animent?
Oui, alors il y a vraiment, je dirais, en Israël et en Amérique du Nord, de plus en plus, et surtout toute une nouvelle génération de chercheurs, en sciences sociales, en anthropologie, et beaucoup de femmes qui s'intéressent aussi au milieu ultra-orthodoxe. Je pense à ma collègue qui est à Rutgers University, Michael Rocher, qui vient de publier un ouvrage autour des femmes haredi en Israël, et plus particulièrement sur leur rapport à la pregnancy, à la maternité.
Ah oui, le fait d'être enceinte, oui.
Et donc, il y a toute une génération, il y a le travail aussi d'Ayala Feder, d'un certain nombre de chercheurs qui s'intéressent à cet univers-là, plus particulièrement dans le milieu orthodoxe, ou chassidique, je dirais. Le thème des artistes, puisque moi, je me suis vraiment penchée sur les artistes, est vraiment de montrer la porosité des frontières aussi entre des artistes qui quittent, qu'on met en lumière justement dans Unorthodox, et des artistes qui sont encore à l'intérieur de la communauté, vraiment de montrer la complexité de cet univers-là, parce que lorsqu'il est représenté dans les médias, et là on voit qu'il y a un intérêt très très fort aussi, on est vraiment dans une sensationnalisation en fait du phénomène. Donc il y a un mouvement de plus en plus important de chercheurs qui s'intéressent en effet au sujet.
Alors malgré cet intérêt, est-ce que vous rencontrez des difficultés ou dans le monde universitaire ou auprès du milieu haredi pour trouver notamment des témoins, des témoignages?
Alors comme tout terrain, on s'engage dépendamment des portes qui s'ouvrent. C'est un petit peu comme ça que j'envisage l'ethnographie. Et dans mon cas, comme de beaucoup de cas des personnes qui s'intéressent à cet univers-là, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et évidemment, on parle d'échange. Enfin, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec ces femmes-là. J'ai été aussi collaboratrice. J'ai enseigné auprès de femmes hassidiques et orthodoxes dans la communauté à Montréal. J'ai donné des cours de piano. Enfin, véritablement, des liens qui prennent beaucoup de temps. Donc je dirais que oui, il y a des difficultés parce que c'est pas n'importe quel terrain non plus, c'est un terrain très fermé. J'ai travaillé aussi avec les sortants, les gens qui ont quitté, et puis d'autres aussi qu'on appelle des gens dans la double vie, en fait, qui sont dans le secret de leur vie laïque, interne, et de leur vie religieuse qu'ils incarnent par leur corps et leurs activités quotidiennes. Donc, oui, des difficultés d'accès, c'est sûr, mais j'ai eu énormément de chance. Je me souviens qu'au début de mon terrain, un collègue à Montréal m'avait dit « Mais écoute, tu oublies ça, tu ne vas jamais avoir accès. » Et en fait, j'ai eu énormément de chance d'accéder. Juste pour un exemple, dans une orthodoxe, elle parle de la communauté Satmar à Williamsburg. Oui. Et je travaille actuellement avec des artistes de la communauté de Kiris Joel, et c'est l'équivalent de Satmar, et encore plus fermé puisqu'on est dans le nord. Et voilà, j'ai rencontré tout un groupe de femmes qui pratiquent de la musique, qui jouent des instruments, et on échange par WhatsApp et des vidéos, et voilà, juste pour montrer un petit...
Un exemple. Alors, c'est fascinant ce que vous nous racontez parce qu'il y a une sorte de mise en abîme finalement dans le choix du sujet avec le milieu fermé de l'ultra-orthodoxie, le groupe particulier des femmes dans ce milieu et en plus celles qui sont artistes. Est-ce que vous pouvez, alors je sais que ça ne va pas être facile, mais nous délivrer quelques conclusions. Déjà, est-ce qu'elles sont nombreuses? Quelles difficultés elles rencontrent? Comment sont-elles perçues par rapport aux autres femmes et par rapport aux hommes d'avoir... Alors, est-ce que c'est un hobby? Est-ce que c'est un métier le fait qu'elles soient artistes? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de toutes ces réflexions?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, il y a plusieurs catégories d'artistes. Il y a ce que j'ai pu découvrir. Je parle d'une écologie artistique orthodoxe, féminine orthodoxe. Et dans cette écologie, j'ai identifié 4 espaces principaux. Un espace qui est le plus fermé, je dirais, où les femmes chantent, dansent pour elles, entre elles, et surtout ne permettent pas à quelqu'un de l'extérieur de facilement avoir accès à cet univers-là. C'est aussi les performances qu'il peut y avoir dans les écoles, dans les summer camps. Mais dans cet univers-là, c'est un marché, c'est devenu un marché. En fait, c'est pas du tout nouveau le fait que les femmes chassidiques, ça fait partie d'une tradition, en fait, surtout les jeunes filles à l'école. Ce qui est nouveau, c'est le fait que, grâce aux nouvelles technologies, en fait, grâce notamment au fait qu'elles peuvent avoir un studio chez elles, il y a toute une nouvelle manière de faire de la musique. Et un marché qui s'est établi, des cours privés, des écoles qui se mettent en place, des cours de danse, parce qu'on est aussi dans une manière de vendre le bien-être, dans une, je dirais, une réflexion un peu globale surtout pour la femme, en fait. C'est-à-dire pour être une bonne mère, une femme aussi qui se sent bien dans son corps, parce qu'on sert Hachem de cette manière-là aussi. Donc vraiment le lien entre le corps et l'esprit à travers la performance qui est très centrale. Donc on a un marché. De l'autre côté, il y a un autre phénomène que j'appelle l'espace semi-public. C'est certaines artistes qui, souvent ici on a quelques chassidiques, mais beaucoup plus de femmes Lidwish, qui désirent en fait devenir, c'est pas assez pour elles l'espace privé. Et celles-là sont ce que j'appelle des célébrités, et sont vues aussi par beaucoup de jeunes filles comme des célébrités. Et elles sont sur YouTube, elles ont des CD, elles ont aussi un marché, mais là c'est même plus un marché informel, on est dans une industrie. Je parle d'une industrie, j'appelle ça Kolisha Industry. Vraiment, parce qu'elle désigne en fait la limite de l'accès à leur pratique artistique aux hommes en signalant Only for women, seulement pour les femmes, par les femmes, et c'est écrit même sur les vidéos YouTube. Donc ça, c'est le deuxième espace. Ensuite, on a un autre espace que j'appelle l'espace contre-public, activiste. Ce sont les femmes qui sont sur réseaux sociaux et qui veulent transformer aussi, mettre de nouveaux modèles sur comment est-ce qu'on est tsniout, comment on est modeste, comment est-ce que l'on peut aussi engager dans un certain nombre d'actions sociales. Et le dernier espace qui est cet espace public, ce sont les artistes, souvent la chassidique principalement, qui quittent leur univers et qui vont jouer donc sur les scènes de théâtre yiddish ou bien dans orthodox, mais qui sont aussi dans un dilemme constant sur la manière dont ils doivent représenter leur communauté à l'extérieur. Donc voilà, pour vous faire un petit peu, vous montrer ces différents espaces avec différents acteurs, différentes fonctions, mais on voit qu'il y a véritablement l'émergence en fait d'une profession et de plusieurs marchés, en fait d'une... On est dans une société de consommation. On voit l'impact depuis une vingtaine d'années et qui, évidemment, change la manière et le rôle de ces femmes-là à l'intérieur de leur communauté.
Et les hommes dans tout ça, comment perçoivent-ils eh bien, ces femmes qui ont une activité artistique, des femmes qui utilisent Internet, le mal absolu, et des femmes qui utilisent en dansant ou en chantant leur corps. Leur corps est un sujet important en monde religieux.
Alors les femmes que j'ai rencontrées, dans la plupart des cas, ont le soutien de leur homme. Et souvent, et c'est ça qui... Il y a quelques-unes des femmes que j'ai rencontrées où il y a une tension, enfin, plus particulièrement une personne à laquelle je pense, où c'est en tension, mais c'est une négociation perpétuelle avec son conjoint. Mais dans beaucoup d'autres cas, en fait, il y a un soutien. Et au contraire, bon, lorsqu'on est dans l'espace privé, il n'y a aucun problème. Sauf qu'on est quand même dans une forme de limite. C'est des choses qu'on fait parfois... de l'extérieur, c'est pas forcément quelque chose qu'on affiche. Et comme on est entre femmes aussi, surtout pour l'espace privé, les hommes n'ont pas accès à ça. Les hommes n'ont pas accès. Ceux qui ont accès, c'est souvent des gens de la famille ou justement les conjoints. Mais sinon, c'est un univers de femmes. Et en fait, d'une certaine manière, parce qu'elles sont entre femmes, ça leur donne une plus grande agentivité aussi. Celles qui sont sur YouTube, il y a de gros débats. Mais beaucoup plus par les femmes que par les hommes, en fait. Par les femmes que j'appelle plus conservatrices, qui justement disent que c'est pas de tsniout, et donc elles ne veulent pas, surtout dans les milieux plus conservateurs racidiques, ne veulent plus les inviter, par exemple, pour des événements. Mais malgré le fait qu'ils ne veulent pas les inviter, elles sont quand même, leurs CD, leurs DVD sont en vente dans les magasins, et les jeunes filles continuent à consommer ou peuvent consommer ces produits-là. Donc c'est tout le paradoxe et l'ambivalence, en fait, de l'orthodoxie et surtout de cet univers que l'on appelle ultra-orthodoxes, qui est plus fermée.
Est-ce qu'elles sont nombreuses, ces femmes artistes orthodoxes?
Alors, déjà chez les jeunes filles, toutes les jeunes filles dansent, toutes les jeunes filles chantent, il y a vraiment une dimension artistique. Donc, je dirais que ça fait partie de l'éducation. Donc, dans cet espace-là, elles sont nombreuses. Celles qui deviennent plus professionnelles, non, elles ne sont pas nombreuses. Je dirais qu'elles à engager dans une forme d'industrie. C'est une communauté, celles qui sont par exemple sur Internet, c'est une communauté autour de 30 personnes, c'est une communauté globale, je dirais, celle avec laquelle je collabore.
Donc c'est sur un groupe de combien, est-ce que vous avez une idée en Amérique du Nord, entre le Canada et les États-Unis?
Alors, moi, par exemple, sur les femmes avec lesquelles je travaille et que je suis, c'est autour entre 40 et 50. Après, il y a un corpus beaucoup plus restreint sur un groupe de... Je dirais en termes des nombres, je sais qu'à Montréal, on est autour de 25 000. À Montréal, par exemple, on n'a pas d'artistes autant comme à Montréal. Mais par contre, il y a une créativité artistique très, très intense dans la communauté. Donc, en fait, je voudrais juste revenir sur cette différence entre l'artiste professionnel et la créativité. Et la créativité qui est dans l'espace public, privé, pardon. Et c'est une créativité collective qui est mise de l'avant, mais on ne devient pas artiste. Donc ça, c'est dans les espaces plus conservateurs. Cette communauté émergente d'artistes qui veulent être, qui sont des célébrités, on est dans une petite communauté, donc comme j'ai dit, une trentaine. Donc c'est vrai que c'est assez minime. Mais je dirais qu'elles sont quand même consommées de façon, de façon générale aussi dans la société. On n'a pas énormément de célébrités, donc c'est d'avoir ces role models, ces modèles en fait, oui. Féminins. Donc c'est un peu difficile, je dirais, de comparer par rapport au reste de la population en Amérique du Nord, mais voilà, on est dans une petite communauté. Mais même chez les hommes. Je reviens sur il n'y a pas énormément de chanteurs célèbres dans le milieu orthodoxe. Non plus.
Alors, qui deviennent parfois certains shwiki, je pense, des stars internationales qui voyagent à l'étranger. On n'a pas ça hein, chez les femmes.
Alors oui,
si.
Elles voyagent. Certaines, je pense à Deborah Schwartz, par exemple. Je pense à Braha Jaffa et aussi Dobby Baum. Elle est anglaise. Elle a immigré aux États-Unis. Elles font des tournées, et même je pense à une autre Malky Gineger qui est une célébrité mais qui n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est une ancienne génération. Elles font des tournées en Australie, elles font des tournées certaines au Mexique, au sein des communautés et encore une fois, pour les femmes, par les femmes. Donc il y a ce réseau de tournées internationales, elles sont très peu nombreuses, mais elles s'invitent, ou dans les camps aussi, dans les summer camps. Donc il y a ce phénomène-là, mais qui est informel.
Et qui ne passe pas en Europe, ou en tout cas en France, on ne les connaît pas.
Non, en France, non. Mais en Angleterre, elles sont invitées. Il y a aussi un cœur de jeunes femmes en Angleterre, dans la communauté racidique. Et en Belgique aussi, beaucoup, beaucoup plus petit, mais oui.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de la Fréquence juive, en compagnie de Jessica Roda, qui nous parle de ses recherches passionnantes sur les femmes et les artistes femmes en monde juif haredi. Il y a eu la pandémie, on est même encore dedans. Hein. Est-ce que cette pandémie a changé la situation de ces femmes artistes?
Alors oui, il y a quelque chose d'assez fascinant qui s'est passé. Puis, dans mon cas, je devais aussi retourner à New York de façon... C'était pour un dernier terrain et beaucoup de concerts donc, ont été annulés. Et donc au mois de mars-avril, c'était parce que souvent il y a une période pendant Chalamoïd, en fait, pendant la période de Pessah et Sukkot, pendant le moment où on a des vacances, c'est là qu'il y a beaucoup de concerts, beaucoup d'événements. Et à ce moment-là, tout a été, pour Pessah 2020, tout a été annulé. Et les femmes qui étaient déjà un peu sur Internet, sur Instagram, ont commencé à faire des Insta Live. On commençait à s'inviter entre elles. On commençait à chanter sur leur plateforme Instagram. Souvent, elles ont des comptes privés. Hein? Donc, il faut être une femme pour pouvoir y avoir accès. À part certaines d'entre elles qui ont décidé d'avoir un compte public, elles ont commencé à faire des concerts Zoom. Et là, on a commencé aussi à voir un certain nombre d'organisations sociales qui soutiennent donc différentes causes, financer aussi ces concerts live pour faire des levées de fonds. On a beaucoup, pour tous les événements de Tzedaka, de charité, pour des événements pour les femmes, ben, tout d'un coup, on dit, bon, ben, on ne peut plus faire de concerts ou d'événements en présence, en présentiel. Donc, ben, pourquoi pas le faire sur Zoom ou le faire, les enregistrer, etc. Et là, par exemple, pour Hanouka, un certain nombre de femmes ont aussi enregistré des concerts live. Pas live, elles appellent ça concert live qu'elles vont mettre, mais elles les ont préenregistrés avec toute une chorégraphie, maintenant avec des orchestres. Donc ça a véritablement aussi transformé et ça a un petit peu, je dirais, accéléré la consommation aussi de certaines d'entre elles, même dans les milieux plus conservateurs, de cette production artistique. Et ça augmenter aussi les attentes, en fait, des consommatrices. On veut, et elle parle beaucoup de ça, the professional sound, le son professionnel, la danse professionnelle. Et ça, c'est vraiment, je dirais que ça, c'était déjà là, mais à cause du Covid, ça a
amplifié.
Exactement.
Alors, vous nous faites toucher du doigt tout un monde qu'on ne peut pas imaginer. Vous l'avez dit, Hanouka commence ce soir. Est-ce que nous, en France, on peut assister à certains de ces événements?
Oui, oui, tout à fait.
Comment on les trouve?
Eh bien, sur Instagram, vous pouvez suivre, par exemple, Devoa Schwartz. Vous pouvez suivre Braha Shafa. Et elles font leurs annonces, en fait, de leurs concerts. Vous pouvez acheter des tickets et vous pouvez voir, en fait, visionner leur production artistique. Vous pouvez même aller sur YouTube après ce soir et vérifier ces noms-là. Et vous allez voir qu'en cliquant sur un nom, d'autres aussi noms vont apparaître. Et si vous allez sur leurs réseaux sociaux, c'est principalement Instagram qu'elles utilisent. Vous allez voir les différentes annonces, des événements qu'elles font, des live ou bien en personne ou bien en ligne. Donc oui, Vous pouvez consommer ces productions,
ces vidéos. Dans l'organisation, c'est entièrement féminin, même la mise en ligne, les enregistrements, la maîtrise d'Internet pour des femmes qui normalement n'y ont pas accès quand elles sont enfants ou adolescentes.
Alors, il y a un petit peu, je dirais qu'ici, il y a un mixte. Sur la représentation, donc par exemple, l'orchestre va être entièrement féminin. Toutes les personnes que vous allez voir à l'écran sont entièrement. À part certaines personnes qui sont à la technique, surtout pour ce qui est des ingénieurs du son. On a dans l'espace que je vous ai dit tout à l'heure, dans l'écologie, l'espace le plus fermé, ce sont que des femmes. Ce sont que des femmes au studio. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a grandi, parce qu'elles ne veulent absolument pas d'avoir de lien avec les hommes. Par contre, dans l'espace semi-public, où là, elles sont plus professionnelles, elles ont une formation avec souvent musicale ou de chant ou de danse, je dirais donc oui, plus professionnelle, professionnalisante, ces femmes-là vont travailler avec des hommes. Mais comme on est dans un espace professionnel, il n'y a pas de problème en fait. C'est de cette manière-là qu'on justifie ça. La même chose pour Internet, c'est le paradoxe aussi. Beaucoup d'entre elles qui utilisent Instagram justifient ça en disant c'est mon entreprise, c'est pour valoriser, pour vendre mon entreprise. Et donc, toute la justification finalement autour de l'économie et d'apporter ce qu'on appelle du parnassa, donc de l'argent
oui,
en fait.
Une rétribution.
Rétribution à l'intérieur de la famille, en fait, ça justifie finalement tous ces usages et de permettre à certaines d'entre elles de transcender un petit peu aussi ce qu'on attend d'elles dans l'usage de la création artistique. Donc, parce que certaines d'entre elles, elles aiment ça juste parce qu'elles ont... Elles aiment la musique, en fait.
Ou un espace de liberté.
Voilà, exactement.
Est-ce qu'elles, finalement, elles ne sont pas en marge de leur communauté?
Les artistes professionnels, oui et non, je dirais. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas... Celles qui sont dans cet espace semi-public, elles sont pas la norme. Donc, est-ce que ne pas être la norme, est-ce que ça veut dire qu'on est en marge? C'est compliqué, je pense. Par contre, étant donné qu'elles sont consommées, que les arts, la créativité fait partie, je dirais, de cet univers féminin, je dirais que cette pratique-là ou ces pratiques-là ne sont pas marginalisantes.
Alors peut-être aussi par les thématiques qu'elles abordent. Est-ce que leur spectacle, leur chant, tout est sur des thèmes bibliques, religieux ou liés à Israël? Alors peut-être pas pour les orthodoxes.
Alors ce sont des textes dans la plupart sur l'espace privé. Elles reprennent beaucoup de chants traditionnels, etc. Donc de chants traditionnels avec des textes bibliques. Donc il y a une référence religieuse très forte ou des chants en yiddish. Pour l'espace semi-professionnel, vous pouvez écouter. C'est une référence un peu plus, je dirais, spirituelle. C'est pas évident. Je dirais, elles vont pas parler de. C'est souvent une référence à Dieu, mais ce n'est pas forcément de manière explicite, ou bien c'est une référence au peuple juif qui réussit malgré la contrainte. Donc, il y a toujours un message, je dirais, spirituel. Donc, c'est sûr. Et l'autre élément, le fait que l'usage, en fait, de leur pratique et de leur chant, en fait, c'est aussi pour consolider le sentiment d'appartenir à une même communauté. Est-ce qu'on, le concept de sisterhood qui avait été développé beaucoup par l'une la fondatrice, en fait, de l'école juive orthodoxe pour femmes, Sarah Schneer, qui, au début du 20e siècle, avait créé ces pratiques pour l'espace privé. Donc oui, il y a quand même quelque chose d'assez central là-dessus.
Le monde ultra-religieux en Amérique du Nord est essentiellement ashkénaze. Est-ce que parmi ces femmes, il y a des séfarades ?
Alors, il y a quelques, pas qui sont, je dirais, qui sont célèbres pour l'instant, au même titre que les autres. Elles sont principalement toutes ashkénazes. Il y a, j'ai rencontré deux personnalités ou deux jeunes femmes qui sont souvent invitées pour la danse, etc. Ils ont aussi un Broadway pour femmes, hein, ça je ne l'ai pas mentionné, pour femmes par les femmes qui s'appelle Rachel's Place. D'ailleurs, ils ont terminé en 2010, mais ça a duré 10 ans. Et il y avait plusieurs jeunes filles qui font partie de la communauté orthodoxe qui sont séfarades. Il y a une chanteuse, en fait, qui est française, d'origine française, Dalia, qui faisait partie d'un groupe, qui est Chabad d'ailleurs, un groupe assez important de rock band pour femmes. Donc, je dirais, dans le milieu Chabad, il y a plus de femmes séfarades que dans l'autre univers. Donc, il y a quelques-unes, souvent donc des Baal Teshuvah, des jeunes femmes qui sont devenues religieuses, qui se sont affiliées progressivement à l'univers ultra-orthodoxe.
Est-ce que vous pensez que ces femmes sont foncièrement heureuses ?
Oui.
Et on en arrive à ces exceptions. Alors, est-ce que ce sont des exceptions qui quittent aussi ce milieu qui les sclérose ?
Alors, oui, toutes celles que j'ai rencontrées ont une satisfaction et celles qui ne l'ont pas, ben, en fait, c'est ça, elles ont quitté parce que ça n'était pas assez, c'était pas suffisant dans certains cas, cet espace restrictif uniquement aux femmes, ou certains d'entre elles. En fait, ce qui est assez intéressant sur les artistes qui ont quitté et qui sont à l'écran, la plupart d'entre elles sont racidiques et viennent de milieux les plus conservateurs. Donc, Satmar, je connais d'autres qui viennent de la communauté Tosh à Montréal, donc, ou Satmar affilié, en fait, plusieurs communautés racidiques qui viennent de cet univers-là. Donc, c'est assez intéressant parce que les Litvish, qu'on dit souvent un peu au milieu, parce que, bon, elles ont des plus longues shaitels, elles ont plus grande liberté, d'une certaine manière, que les racidiques Satmar. Celles-là, j'en ai pas rencontré qui ont quitté la communauté. C'est assez intéressant. Et celles qui ont quitté, donc, sont principalement venues des milieux les plus conservateurs. Et celles qui ont quitté ne sont pas non plus forcément satisfaites de leur situation lorsqu'elles arrivent dans le... Il y a vraiment, comme je disais, un dilemme, parce qu'elles sont aussi instrumentalisées pour représenter l'univers ultra-orthodoxe au cinéma. Et donc, et souvent, elles se rendent compte aussi qu'il y a de cette sensationnalisation de l'univers racidique à l'écran. Et progressivement, c'est ce qui est en train de se passer. Certaines d'entre elles, là je pense à Malky Goldman et à Melissa Weiss, les deux femmes avec lesquelles je travaille, qui ont créé cette production, cette maison de production qui s'appelle Malky Square Production, qui est une maison de production pour des consultantes, des gens par exemple de Netflix, ou des gens qui vont travailler avec Netflix et qui vont faire un nouveau film sur la communauté, qui vont les contacter et leur demander de lire le scénario, le script, et elles vont évaluer s'il y a quelque chose d'authentique ou pas. Et donc, elles participent de plus en plus, et même elles veulent devenir des productrices pour changer la manière dont on voit cet univers-là. Donc, celles qui quittent, celles qui se sentent trop sclérosées, quittent, en effet. Et d'autres...
Mais elles sont rares. Donc, finalement, le fait d'être des femmes artistes les aide à rester dans ce milieu plutôt que d'en sortir.
Je dirais oui, je pense que la créativité, ces espaces de créativité, ces espaces de moments où elles développent un petit peu ce qu'elles ont envie, le fait d'être autre chose que d'être une mère ou d'être une épouse, ça laisse cette possibilité-là qui grandit de plus en plus au
comme
sein de la communauté.
Comme des soupapes.
Oui. Oui. Oui.
Et alors, vous êtes chercheuse, vous êtes enseignante, vous avez un background assez important, donc vous êtes une scientifique et normalement, vous ne portez pas un regard hein, personnel sur la question, mais est-ce que quand on est une femme juive, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un avis sur ce groupe? Qu'est-ce que vous diriez sur le sujet?
Oui. Alors, c'est tout le paradoxe. Je pense que je vais écrire en introduction. J'ai un respect profond et une compréhension, j'essaie d'avoir une compréhension fine de la manière dont ces espaces-là fonctionnent, dont la créativité, les multiplicités de comprendre un concept, en fait, dépendamment des acteurs, donc d'essayer de mettre en lumière ces différents espaces. Mais en effet, il y a des moments où, il y a, en tant que moi, jeune Jessica Roda, femme juive, contemporaine, féministe d'une certaine manière. Oui, le fait que le mariage arrangé, je trouve ça difficile. Le fait que certaines jeunes filles que j'ai connues toutes jeunes vont, et certaines jeunes femmes, se raser la tête une fois qu'elles sont mariées ou que le fait de conduire, ça ne fait pas partie de on ne doit pas forcément conduire. Donc, un certain nombre de pratiques, surtout pour le milieu, je dirais, plus conservateur racidique, que je trouve, je trouve antagoniste ou en opposition, d'une certaine manière, avec la manière dont je peux penser la femme. Mais aujourd'hui, mais en même temps, c'est important d'à la fois de relater de leur réalité, mais en même temps, de parler d'une certaine manière de cet autre côté pour ne pas romantiser non plus cet univers-là.
Alors, vous êtes justement dans des études de genre qui, en général, sont davantage du côté du féminisme. Et là, finalement, aboutir à une conclusion où des femmes orthodoxes dans les milieux juifs d'Amérique du Nord sont heureuses dans ce milieu-là et ont trouvé un souffle de liberté en étant artistes, ça contredit un petit peu les gender studies.
Alors non, parce que... Il y a ce féminisme aussi, d'une certaine manière, de défendre cette idée que, surtout pour celles qui sont sur Internet, je parle même d'un chapitre, je parle de cyberféminisme. Et je mobilise beaucoup d'éléments qui sont utilisés aux études féministes postcoloniales, en fait. Parce que justement, il y a beaucoup de liens dans leur manière de défendre l'idée que non, on veut être entre femmes, on n'a pas envie d'avoir les hommes au milieu. Et je me souviens encore, parce que j'ai, pour la petite anecdote, sur le terrain, j'ai participé à un film qui s'appelle, j'ai oublié le nom, peu importe
ça
le film,
peu importe.
Mais avec Malky Weingarten, qui est une productrice. Et j'ai même joué, j'ai un petit rôle dans le film, et j'étais un petit peu l'assistante. Et je me souviens, quand on est arrivé au moment, c'était en novembre dernier, il y a un an exactement. Le film s'appelle Hush Hush. C'est autour de la santé mentale et la difficulté, et pas uniquement le trauma, mais la marginalisation en fait des femmes principalement parce que là c'est pour les femmes qui ont des problèmes de santé mentale ou des dépressions pour les mariages arrangés. Et en arrivant, je me souviens que il y avait des jeunes filles et puis il y avait des femmes aussi mariées. Donc ça, c'est vraiment important de faire la différence des statuts. Et tout le monde disait, tout le monde parle de Hollywood, de féminisme, et nous voilà tout un groupe de femmes. C'est nous qui sommes les vraies féministes. Donc voilà, juste pour...
Tout le paradoxe du sujet. Est-ce que vous pensez que ce mouvement s'amplifie? Est-ce qu'il y a davantage de femmes artistes juives dans les milieux de l'orthodoxie?
Oui, je pense que ça laisse, dans tous les cas, et que ça s'amplifie, je dirais que ça se normalise. Il y a une normalisation. Par exemple, de la vidéo YouTube, il y a encore 5 ans, c'était très tabou. Les jeunes femmes qui faisaient ça le faisaient sur Enlisted, elles se sentaient pas sécures. Et aujourd'hui, on a des organisations qui financent ces vidéos. Après, ils vont décider de quelles femmes sont déjà là et ont déjà une positionnalité pour pouvoir être sur YouTube et justement vendre ou permettre d'attirer un certain nombre de personnes à donner pour la communauté.
Pardonnez-moi, je vous interromps. Ça veut dire que nombre de jeunes femmes, ou moins jeunes, ont des téléphones portables avec Internet dans ces milieux?
Alors, c'est une grande question. Les jeunes, normalement, on a le flip phone, donc
le téléphone classique.
Mais beaucoup dans toutes celles que j'ai rencontrées avaient soit un deuxième téléphone, ou soit normalement on doit avoir un filtre sur son téléphone parce que pour être certaine qu'on va pas utiliser, parce que par exemple pour le travail dans certains, vous avez le droit d'utiliser Internet, mais il faut que ce soit filtré. Donc, vous ne pouvez pas accéder à certains sites. Mmh. Donc, certaines ont un filtre ou bien ont enlevé le filtre. Donc, il y a vraiment un certain nombre de jeux. On est dans un espace subversif. Hein. Il y a de tout. Il y a celles même qui sont à l'intérieur et qui refusent d'avoir qui pourtant ont Internet. C'était très intéressant. Juste pour vous expliquer la complexité, cette productrice de films qui vient d'une communauté racidique et qui refuse donc d'avoir un téléphone intelligent, qui a un flip phone. Et pendant qu'on faisait le shooting du film l'année dernière, tout le monde disait, mais c'est pas possible, il te faut un téléphone intelligent, on puisse communiquer sur le groupe WhatsApp. Elle dit, non, moi je ne veux pas. Et on a commencé à parler d'Internet et je lui ai dit, mais comment tu fais pour le film? Pour faire le montage, tu dois avoir Internet. Mais elle me dit, non, j'ai Internet, mais pas à la maison. Je dis, mais comment tu fais? Elle me dit, et progressivement, au cours de la conversation, elle me dit qu'elle a Internet, mais dans une chambre.
D'accord.
Donc, et ça a pris beaucoup de temps pour qu'elle m'avoue à moi qu'elle avait Internet. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir Internet?
Tabou. Internet reste encore tabou.
Oui, ça reste tabou. Ça reste très tabou.
En tout cas, merci infiniment. On aurait envie de pouvoir discuter encore des heures avec vous. On va vous entendre en France. Vous restez encore quelques jours pour des études, des communications attendues. Et puis surtout, on attend votre livre. Et j'espère qu'on pourra vous recevoir à la radio d'ici là. Merci infiniment. Et puis à très bientôt, sans doute.
À très bientôt, Sandrine. Merci infiniment.